Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. l'abbé José Mpundu Eboto. Il est prêtre catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, aumônier diocésain des intellectuels et cadre dirigeant catholique, figure emblématique de la société civile et de la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes des millions à nous suivre à travers le monde. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Monsieur l'abbé José Mpundu, bonjour.
Bonjour Alain.
On est encore au début de l'année, bonne année.
Bonne année aussi, merci.
Comment allez-vous?
Je me porte bien.
Au mois de juin prochain, vous allez totaliser 75 ans.
Exactement.
Comment
le
se
7
sent...
juin.
Le 7 juin. Oui. Comment se sent-on à 75 ans?
Certes, on prend de l'âge, on vieillit. Hein? Comme disent les Écritures, vieillissant, il fructifie encore. N'est-ce pas? Plein de sève et de verdeur. Voilà. Et bien souvent, hein, les amis avec qui je vis me disent « Mais toi, tu ne vieillis pas. Hein? Quel est ton secret ?» Moi, je dis « Écoute, le secret, c'est être bien avec soi-même, être en harmonie avec soi-même, être en harmonie avec les autres, être en harmonie avec la nature, être en harmonie avec Dieu. Mais en fait, c'est être bien avec soi-même, se sentir bien dans sa peau. N'est-ce pas? Et ne pas envier quoi que ce soit, ne pas te comparer aux autres.
Se contenter de ce qu'on a.
Se contenter de ce qu'on a et surtout de ce qu'on est.
Vous voyez le jour, pas à Kinshasa, mais à Inongo, jadis dans la province du Bandundu, aujourd'hui dans la province du Maïndombe. Oui. Vous êtes aîné d'une grande famille.
Nous sommes nés à 13. 13 de même père et de même mère.
Waouh.
Et si je compte ceux qui sont nés d'autres mères, eh bien, nous sommes à 16. Nous sommes restés sur les 16, nous sommes restés à 15.
La famille quitte Inongo et vient à Kinshasa, c'est là où vous faites votre école primaire et votre école secondaire, c'est dans quelle école?
Eh bien, nous quittons Inongo, d'abord c'est papa qui a quitté Inongo, nous sommes restés parce qu'il est venu pour travailler comme enseignant. Hein, ses amis qui étaient déjà venus à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque, lui ont dit « Mais écoute-toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Rejoins-nous. » Alors, il a rejoint ses amis qui étaient ici. Hein, je pense à papa Pierre Lotoy, je pense à papa Joseph Yombo. Eh bien, ils l'ont fait venir à Kinshasa. Hein, et il a trouvé sa maison à Bandal Bisengo, quartier Max Horn, paroisse Saint-Michel. Il arrive le premier, et puis nous le suivons. À l'époque, nous étions à 4, l'aîné que je suis, avec mes 3 petites sœurs, Marie-Thérèse, Honorine et Anne-Marie. Nous arrivons, moi j'avais, je crois, 5 ans hein, quand nous sommes arrivés à Kinshasa. Et je commence mes études à l'école primaire. À l'époque, il n'y avait pas de maternelle. On faisait ce qu'on appelle la zéro année.
Okay. Hein?
La zéro année, c'était l'équivalent de
l'école
maternelle. Hein? La zéro année à Sinkin. Et j'ai continué première année, deuxième année et troisième année à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle. À Sinkin. Maintenant, je ne sais plus quel est le nom que l'école a pris, mais je sais qu'à l'époque, c'était Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors, c'est là où j'ai fait la première année, la deuxième année et la troisième année. Quand j'ai terminé la troisième année, papa avait estimé que j'aille continuer mes études au collège Albert Ier.
L'actuel collège Boboto.
L'actuel collège Boboto. Et le collège Albert Ier était un collège des Blancs, en fait, à Kalina.
À la Gombe, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, Gombe. Hein, et ce sont la plupart les enfants des Blancs hein, qui étudiaient là-bas. Et les enseignants étaient des Blancs. Je n'ai pas connu à cette époque-là un enseignant noir, à l'école primaire en tout cas. La plupart des enseignants qui étaient là étaient des Belges, hein, des Blancs. J'ai fait donc la quatrième année, la cinquième année et la sixième année au petit collège. Ça s'appelait comme ça. Il y avait le petit collège et il y avait le grand collège. j'ai fait le petit collège. En sixième année, j'ai réussi à l'examen sélectif, parce que l'examen sélectif a commencé à cette période-là.
Okay.
Alors, j'ai réussi à l'examen sélectif, mais je n'ai pas réussi à l'examen de l'école. Et je pouvais commencer les humanités avec mon certificat sélectif. C'est ça, okay, qui me donnait la possibilité de commencer le cycle d'orientation à l'époque. Eh bien, comme papa était très sévère, il voulait pas que je passe de classe alors que je n'ai pas satisfait au collège. Alors papa m'a dit, tu reprends la sixième.
Ah bon?
Et j'ai repris la sixième primaire. Ce qui fait que il y a beaucoup d'amis avec qui on était en sixième primaire, eh bien, qui sont passés aux humanités. Et moi, j'ai eu une année, je dirais, de retard, par rapport à eux.
Et l'année qui a suivi, vous avez pu avoir ce diplôme.
J'ai eu
du collège.
Du collège et le certificat sélectif. Donc, j'ai deux certificats sélectifs et le bulletin de l'école primaire du collège Albert où j'ai finalement réussi et j'ai choisi de faire les gréco-latines. Parce que, à l'époque, il y avait le cycle d'orientation qui venait de commencer, et puis il y avait les humanités anciennes, comme on les appelait. Hein, les humanités anciennes, c'était les gréco-latines. Moi, j'ai choisi de faire les gréco-latines.
Et pourquoi ce choix-là?
Ce choix-là, parce que, bon, j'aimais bien les langues. Et c'est comme ça que j'ai opté pour gréco-latine.
Hein. Et ça vous a poursuivi dans les Dominus Vobiscum?
Oui, ça m'a poursuivi. J'ai appris le latin en sixième.
Et donc, rappelez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit à 75 ans, ce n'est pas évident.
Oh, ben écoute, j'ai encore beaucoup de noms d'amis d'enfance. Je commence par un qui m'était très très proche et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, c'est Félix Mvwemba, qui fut professeur au campus ici, à l'université de Kinshasa et à l'université de Lubumbashi aussi. C'est un de mes grands amis avec qui nous avons grandi au collège. Nous avons étudié ensemble, nous avons terminé ensemble. À côté de Félix, je vois mon ami...
Le nom...
mais parfois, on perd comme ça.
On perd, ça arrive qu'on perde certains noms. Le visage, on le voit, mais le nom...
Et c'est bizarre, hein, que j'ai pensé à lui, le nom était là et puis...
Et puis il ne vient plus là.
Docteur Yvon Chilombo, que nous appelons entre amis, on l'appelait Roscoe.
Pourquoi?
C'est un surnom qu'on lui a donné, Roscoe. Roscoe a été médecin des léopards pendant longtemps. Il y a des amis avec qui on a grandi, à Bandal. Je pense aujourd'hui à une qui vient de nous quitter, professeur Marie-Jeanne Kalenga. Et puis, il y a des amis comme Narcisse Lembo. Il a travaillé au FIDA à l'époque.
Ça
s'appelait au FIDA.
Alors, avec tous ces amis, c'était quel jeu pendant l'enfance?
Alors, l'ami dont le nom m'avait échappé, c'est Alfred Kibangula.
Okay.
On l'appelait toujours Fredus. et lui, il travaille au ministère de l'Agriculture. On reste toujours en contact, n'est-ce pas? Il y en a qui sont en Europe. Je vois un gars comme Arthur Langa qui est toujours en contact avec moi.
On les salue, s'ils nous entendent.
Raoul,
on les salue.
Raoul, qui est aussi en Europe. Un gars comme Michel Ngoma, qu'on appelait Mick. Et moi, on m'appelait Pic. Et un gars comme Victor Batubenga, qui a été inspecteur.
Oui, IGF, qui est décédé.
Non, IGF, il n'est pas décédé, il est encore en vie. Il était IGF avant Jules Alinguete.
Avant Jules Alinguete.
C'est Jules Alinguete qui l'a remplacé.
Ah, d'accord.
Et Victor Batubenga, on l'appelait Bavik.
Ok. Mais à Bandal, il y a les terrains saint-cassiens, il y a des terrains de foot. Est-ce que vous passiez du temps là-bas?
Oui,
Bandal, c'est aussi la musique, Bisengo. Bandal,
c'est
très mouvementé.
Nous autres, à l'époque où nous avons grandi, ce n'était pas nécessairement la musique et tout. Notre occupation, et c'est un souvenir que j'aimerais évoquer ici, nous étions un groupe de six. On appelait ça le groupe de six. Le groupe de six, c'était six gars. On se retrouvait régulièrement chez moi. ou chez un de nos amis, n'est-ce pas? On passait la soirée ensemble, on discutait et tout ça. Et
vous parliez des filles?
Non, pas des filles. On parlait plutôt de nos activités des jeunes. Et parmi les activités des jeunes dans lesquelles nous nous sommes engagés, c'était encadrer les plus jeunes, les enfants. Et nous avons tous été dans une école des cadres de jeunes qu'on appelait ECJ, qui nous a formés comme animateurs, comme entraîneurs, n'est-ce pas, pour les enfants, les jeunes. Et on allait avec les enfants pendant les grandes vacances, on allait à des colonies de vacances. On a eu colonies de vacances à Madimba, on a eu des colonies de vacances au Bas-Congo, à Tumba, pas mal de colonies de vacances auxquelles nous avons participé.
Et ça a beaucoup contribué à la formation de plusieurs jeunes.
Les colonies de vacances, à l'époque, on les faisait avec les enfants du juge. Donc les enfants qui étaient à Makala, qui étaient en Bensekefuti, qui étaient à Madimba, on appelait ça les centres de rééducation des jeunes, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est avec ces enfants du juge que nous allions en colonies de vacances organisées par l'école des cadres des jeunes, n'est-ce pas ? Par l'État, en fait. L'État subventionnait cela, n'est-ce pas?
Et à vous entendre, je sens en vous une certaine émotion. Vous avez passé une enfance très heureuse.
Ah, très, très heureuse. Hein, avec les amis, on avait aussi ce qu'on appelle le cercle des étudiants de Bandal. Nous nous retrouvions tous les samedis à la paroisse Saint-Michel où nous partageons nos expériences et nous faisions des conférences. Et soit qu'on invitait quelqu'un de l'extérieur qui venait nous entretenir sur un sujet qu'on avait choisi, soit que l'un de nous était désigné ou demandé
pour développer un sujet
et on débattait là-dessus, n'est-ce pas? Alors, et c'est comme ça que j'ai appris à faire des conférences, j'ai appris à débattre.
Tout à fait.
C'est déjà à cette époque-là de l'école secondaire.
Tout à fait.
Alors, il y avait d'autres activités telles que les concours d'éloquence. Hein. On faisait des concours d'éloquence pendant les grandes vacances. On organisait des plaines de jeux de 8h jusqu'à peu près 14h, 15h et on laissait les enfants.
Vraiment.
Voilà. Alors, un peu les activités que nous avons eues lorsque nous étions jeunes.
Dans votre jeunesse.
Dans notre jeunesse.
Vous êtes ordonné prêtre en 1978.
Oui.
C'est par quel concours de circonstances que vous arrivez à cette vocation?
Eh bien, la vocation, c'est quelque chose qui m'est venu depuis l'enfance. J'aimais bien jouer au prêtre.
Ah bon?
Je jouais au prêtre. À l'époque, nous avons grandi en partie à Bandal, Bisengo, dans notre maison familiale, n'est-ce pas? Et comme papa enseignait à Saint-Jean-Berkmans, à côté du stade de Tata Raphaël, alors quitter Bandal pour aller là-bas à Imokongo chaque jour, à un moment donné, il a trouvé une opportunité. Il y a un de ses amis qui partait en France pour des études, n'est-ce pas? Et il avait sa maison à Matongé, à l'époque c'était Rankin, n'est-ce pas, à Bolia numéro 45. C'est là que papa a trouvé cette maison dans laquelle nous sommes allés habiter pendant tout un temps, n'est-ce pas.
Okay.
Et on était alors proche de l'école et à un moment donné, bon, moi j'avais aussi étudié un peu à Saint-Jean-Berkmans, mais pas longtemps, parce que tout de suite je suis allé au collège Albert. Alors la vocation,
eh bien, vous jouez déjà au prêtre quand vous étiez
au prêtre quand nous étions à Rankin, à Matongé. J'avais ma chambre et dans ma chambre il y avait une petite tablette comme ça et je prenais un pagne de maman que je nouais pour faire une sorte de chasuble, n'est-ce pas? Et mes petites sœurs, mes trois petites sœurs, Marie-Thérèse, Honorine et Anne-Marie, étaient mes fidèles. Et moi, je jouais au prêtre. En réalité, cela m'est venu aussi du fait que papa et maman étaient très, très engagés dans l'Église, n'est-ce pas? Et non seulement cela, mais dans la famille, nous avions un prêtre qui était, disons, notre oncle paternel, l'abbé Basine Poutou, prêtre du diocèse d'Inongo. Quand il venait à Léopoldville, eh bien, il venait à la maison. Et à l'époque, les prêtres étaient habillés en soutane. Alors, il avait ses amis prêtres, comme le père Laurent Pongo, qui était curé de la paroisse Saint-Joseph à l'époque. Et quand l'abbé Basile Poutou venait, il logeait chez le père Laurent
et
à
la paroisse Saint-Joseph.
Alors, ils venaient tous les deux, ils venaient le soir chez nous à la maison, en soutane. Et moi, je le voyais, ça m'attirait assez vite, je suis devenu aussi servant de messe, acolyte, enfant de chœur, hein, comme on appelait ça dans le temps, à Saint-Michel, dans notre paroisse de Bandal. Et puis à Saint-Joseph, là où on a passé un bon moment aussi de notre vie, n'est-ce pas? Et par la suite, eh bien, j'ai commencé à nourrir vraiment le désir.
L'appel était pressant.
Oui, le désir de devenir prêtre. Jusqu'au jour où, ben, il faut peut-être raconter aussi la petite histoire. J'ai eu une amie à Bandal. Moi, j'étais au collège, Albert. Elle était au lycée Marie-Thérèse, qui est devenue aujourd'hui Motema-Mpiko. On était très liés. Un beau jour, maman m'attrape avec une lettre d'amour. Et à l'époque, c'était comme ça qu'on fonctionnait.
Voilà.
Quand on avait une petite amie, c'était des lettres d'amour qu'on échangeait.
Il
n'y
avait pas de téléphone, il n'y avait, pas de WhatsApp.
Il y avait seulement des lettres d'amour. Ou alors, les mouchoirs.
Voilà.
Elle te fait un petit mouchoir avec un cœur et tout, et elle te l'offre. C'était comme ça que ça se passait. C'était plutôt, disons, des relations amoureuses platoniques. C'était vraiment platonique.
Tout à fait.
Et un jour, maman m'attrape avec
un
mouchoir et une lettre d'amour. Et elle m'appelle à l'arrière de notre parcelle. Et elle me fait asseoir en dessous du manguier, parce qu'on avait un manguier. Et elle me pose la question, parce qu'elle savait que j'avais le désir de devenir prêtre, parce que je lui en avais parlé, et elle voyait comment j'évoluais dans mes activités. J'étais premier toujours au cours de religion. Au collège, on donnait un prix, un prix pour les élèves qui ont brillé dans tel cours. Moi, j'avais le prix de la religion. Dans notre classe, les copains le savaient, on m'avait surnommé Papus. Donc, pape. Alors, tout ce qui était activité religieuse, préparer la messe de classe, les chants,
c'était vous.
Les lectures, c'était moi. Ce jour-là, ça, c'était le jour qui a été un jour déterminant. Nous étions, ma petite amie et moi, on était très bien liés. On se voyait souvent. Elle venait me voir à la maison. Moi, j'allais la voir chez elle aussi en famille. Et on se fréquentait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est elle qui m'a appelé pour la première fois, José.
Ah bon?
Moi, mon nom de baptême, c'est Joseph, deux prénoms, Joseph Pierre.
Et donc, le José qu'on vous connaît aujourd'hui, on lui doit ça.
On doit ça. On lui doit ça.
Maman, moi, vous fait asseoir?
Oui, maman me fait asseoir et me dit, Jeff, parce que à la maison, on m'appelait Jeff. C'est bien après que le José s'est imposé. Jeff, tu ne vas plus devenir prêtre. Voilà la question que maman me pose.
Et ça a tout bouleversé.
Ça a tout bouleversé. Et c'est à partir de ce moment-là que la décision a été prise. Et je me rappelle que quand j'ai annoncé cela à ma petite amie, là, eh bien, c'était comme la fin du monde.
Un deuil.
Un deuil, effectivement. Et nous avons même été invités par le curé de la paroisse qui nous a reçus tous les deux et qui a écouté
l'un mon ami
et qui m'a écouté et qui a pu comprendre ce qui se passait chez ma petite amie et qui m'a révélé cela en me disant, tu sais, ce qu'elle regrette, c'est que l'Église lui enlève l'homme qu'elle aime et l'homme qui l'aime, l'homme qui la respecte et tout. Eh bien, ça, c'était, pour la petite histoire, un moment fort dans ma vie qui m'a décidé. Et alors, en ce moment-là, je me rappelle aussi que nous arrivons en 5e, 6e des humanités et nous faisons la retraite. Parce que l'habitude est restée d'ailleurs.
Oui, jusqu'aujourd'hui chez les pères jésuites.
Les élèves de 6e, n'est-ce pas, font une retraite de fin d'études pour se décider dans la vie. À la retraite qui nous a été prêché par le père Mouziroy. Il était encore père jésuite.
Qui deviendra Monseigneur Mouziroy par la suite.
Qui était père jésuite, Mouziroy Christophe. C'est lui qui nous a prêché la retraite de fin d'études secondaires. Eh bien, c'est à lui que je me suis confié à la fin de la retraite pour dire, père, moi, j'ai décidé de devenir prêtre, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que c'est parti.
Alors, et pour la famille, vous êtes l'aîné, certainement des regrets pour le papa et la maman.
Ben, je vais dire que papa Oui, pour papa, ça a été un peu dur, il faut l'avouer. Mais pour maman, c'était, ça allait de soi. Maman, une légionnaire catéchète, très engagée dans l'église, qui nous a appris à prier, qui nous a appris à fréquenter l'église, qui nous a appris à nous engager dans l'église, ton frère.
Donc, pour maman, c'était tout à fait normal.
Normal. Pour maman, ça allait de soi. Alors, pour papa, bon, il avait un autre projet sur son fils aîné. Et le projet pour papa, c'était de faire que son fils aîné devienne médecin, par exemple. Et c'est ça, c'est à cela qu'il rêvait.
Et lui donne des petits-enfants, certainement.
Oui. Et alors, quand j'ai terminé mes études secondaires, papa et maman et ma famille n'étaient pas à Kinshasa. Papa et maman et mes frères et sœurs étaient au Chaba. Au Chaba qui est devenu Katanga
par la suite.
Et à Lubumbashi particulièrement. C'est là où papa est allé travailler. Quand je termine mes études, j'écris à mon papa pour lui dire que, après les humanités, je vais entrer au séminaire pour devenir prêtre. Et papa a reçu ma lettre, il m'a répondu, et une réponse que je n'oublierai jamais. Parce que pour moi, ça a été une réponse de foi. Bien que ça lui coûtait,
entre guillemets, de perdre un fils.
Par rapport au projet qu'il avait sur moi. Bon, je lui écris, il me répond, comme Abraham n'avait pas refusé de donner son fils Isaac au Seigneur, moi non plus, je ne peux pas te refuser au Seigneur. Pour moi, ça a été une réponse de foi. J'ai senti que j'avais un papa, un homme de foi. Papa a composé des chants religieux, des cantiques qu'on chante le vendredi saint. C'est papa Pundu qui a composé ce chant-là. Quand on regarde dans Toyimbani, vous trouverez
plusieurs chansons.
Deux ou trois, en tout cas il y a des chansons de papa Pundu. Pour te dire qu'il a eu mal après. Au départ, il a donné une réponse de foi à ma lettre. Je suis allé en vacances à Lubumbashi, en famille, après les études, après la fin des humanités. On a fêté mon diplôme. Il m'a offert un beau costume et tout et tout. Et maintenant, il fallait que je rentre à Kinshasa pour commencer le grand séminaire. Moi, je n'ai pas fait le petit séminaire. J'ai fait le collège Albert, collège normal. J'ai vécu comme tous les autres jeunes dans le quartier. J'ai pas été au petit séminaire et jamais en internat. Toujours un externe. Bref. Alors, le jour où je devais rentrer à Kinshasa, la veille, eh bien, maman me racontera, quand ils sont venus me conduire à l'aéroport de la Luano, elle me racontera que la nuit, là, papa avait pleuré. Parce que il a eu beaucoup de peine. Je me rappelle aussi la phrase que papa a prononcée avant que nous nous séparions, que je monte dans l'avion. Il m'a dit, Jeff, tu vas au séminaire pour devenir prêtre, mais ne le fais pas pour me faire plaisir ou faire plaisir à ta maman ou faire plaisir aux amis prêtres que la famille a. Tu y vas par vocation personnelle. Et si tu estimes à un moment donné que tu n'es pas à ta place, eh bien, rentre à la maison, tu auras toujours ta place dans la maison. Voilà la parole que papa m'avait donnée.
Tout à fait. Alors,
et pendant tout le temps que j'étais au séminaire, vraiment, papa et ma maman m'ont accompagné. Je me rappelle, chaque fois que je rentrais en vacances à Lubumbashi, parce que là, le Karnam Alula m'a donné vraiment un privilège que chaque année, il me payait les vacances pour rentrer en famille.
Et donc, mesdames et
là,
messieurs,
papa et maman, pendant les vacances, là, eh bien, s'organisaient pour que je puisse passer une journée de prière avec eux. On allait en récollection
avec papa et maman.
Oui, au centre Emmaüs.
Le grand témoin.
Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre cette émission en cours, je reçois Monsieur l'abbé José Mpundu Eboto, prêtre catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, aumônier diocésain des intellectuels et cadres dirigeants catholiques, figure emblématique de la société civile et de la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé José Mpundu, vos études universitaires, vous faites la psychologie clinique, pour ceux qui ne le savent pas, mais comment vous tombez dans la non-violence?
D'abord, pour ce qui est des études universitaires, il faut compter le fait que j'ai fait d'abord le cycle normal pour devenir prêtre. Et le cycle normal, c'est la philosophie. J'ai fait la philosophie au campus, à l'UNASA et nous habitions à Rigini, dans un séminaire. Hein.
Okay.
Et le séminaire en question, c'est nous qui avons baptisé cela, séminaire de philosophie Saint-Kagwa. Je suis gradué en philosophie de l'université UNASA, à l'époque, Université nationale du Zaïre. Et puis, par la suite, j'ai fait les études de théologie au grand séminaire Jean Vertois. Je suis ordonné en 78 et en 79, le cardinal Maloula me propose d'aller faire des études de philosophie à Louvain-la-Neuve.
En Belgique.
En Belgique, avec l'abbé Baza. Je lui dis, mais écoutez, cardinal, il y a l'abbé Michel Gérard, père son âme, qui nous a quittés, qui est philosophe. L'abbé Alphonse Kibuila, philosophe. Maintenant, tu envoies l'abbé Baza. Baza a été ordonné une année avant moi. Mais on devait aller aux études ensemble. Hein. Tu vas envoyer l'abbé Baza pour faire la philosophie. Et moi aussi, la philosophie. Mais s'il n'y a pas lieu varier pour que nous puissions constituer une équipe pluridisciplinaire.
Tout à fait.
J'avais ma petite idée dans la tête. Et je lui dis, est-ce que vous m'autoriserez à faire des études de psychologie? Parce que j'avais déjà ce désir de faire des études de psychologie, étant donné qu'il y a une amie avec laquelle on a grandi à l'école secondaire ensemble. Et quand on a terminé les humanités, elle est allée faire la psychologie à Kisangani, et moi je suis entré au séminaire. J'ai cultivé le désir de faire la psycho, n'est-ce pas?
Et le cardinal vous a autorisé.
Le cardinal me dira, ben écoute, dans son esprit, la psychologie faisait partie de la philosophie. Voyez, et il croyait que, bon, j'allais entrer à l'Institut de philosophie à Louvain-la-Neuve, et là, je ferais une spécialisation
en psychologie.
Et puis, je me suis renseigné, j'ai découvert que à Louvain-la-Neuve, il y avait une faculté de psychologie. Donc, la psychologie est devenue une science à part, qui ne dépendait plus de la philosophie. Alors, j'ai pris des renseignements et j'en ai parlé au cardinal Maloula en lui disant, non, il y a une faculté de psychologie à Louvain-la-Neuve. Est-ce que vous m'autorisez à prendre l'inscription dans cette faculté? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris l'inscription et nous sommes allés avec l'abbé Baza à Louvain-la-Neuve, où lui a fait 2 ans de licence pour avoir son diplôme de licencié en philo, n'est-ce pas? Ce que moi aussi, je devais faire. Mais moi, j'ai fait 2 années de candidature pour la psychologie. Et il fallait maintenant décider si je rentre après les 2 années de candidature, parce qu'on nous a envoyé pour 2 ans.
Tout à fait.
Alors, lui a fait 2 ans de licence, moi j'ai fait 2 ans de candidature. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai écrit à l'évêque, je lui ai demandé, est-ce que vous m'autorisez à continuer ou vous me demandez de revenir? Alors, il m'a dit, non, tu continues jusqu'en licence. Comme ça que j'ai fait mes 3 années de licence en psychologie clinique.
Monsieur l'abbé, vous avez connu le cardinal Maloula, qui était une très forte personnalité que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas. Un mot sur le cardinal Maloula.
Eh bien, le seul mot que je pourrais dire du cardinal Maloula, c'était un homme. Et un homme au sens fort du terme.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quelqu'un qui avait des valeurs humanistes. Et la plus grande valeur humaniste que j'apprécie, j'admire, et que le cardinal Maloula nous a transmise, c'est la valeur de l'amour. Ce qui justifie le choix de sa devise épiscopale. In caritate. C'est-à-dire dans la charité, dans l'amour. Le deuxième élément que je retiens du cardinal Maloula, c'est le sens de la vérité. Un homme vrai. Et cette vérité, eh bien, il n'avait pas peur de la dire, n'est-ce pas? Et la vérité, il n'avait pas peur non plus de l'entendre, même si parfois c'était pas facile. Mais c'était un homme vrai, un homme de vérité. À telle enseigne que il n'a cessé de nous répéter cela. Mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Et c'est pour cette vérité que Maloula a eu des problèmes avec le régime Mobutu, n'est-ce pas? Il a dû subir l'exil parce que il a osé dire la vérité. Il a osé dire une vérité qui n'a pas plu aux dirigeants de l'époque. Et ça lui a valu tous les problèmes. Et pour ceux qui ne le savent pas, Maloula, ce n'est pas Mobutu qui l'a envoyé en exil. Ça, il faut qu'on le dise. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est le pape qui a demandé à Malula d'aller à Rome pour se retirer un peu et laisser passer un peu
la pression.
La pression. Parce que Mobutu était décidé à faire du mal à Malula par rapport à sa vie personnelle et tout, et était décidé à faire vraiment à nuire à la personnalité de Malula. Et alors le pape lui a demandé s'il ne peut pas aller à Rome et attendre, passer un temps jusqu'à ce que les choses se calment. Et il a eu du mal à y aller, mais il a dû, par obéissance au pape, il a dû se plier et accepter d'aller vivre à Rome pendant quelques mois.
Le nom de l'abbé José Mpundu est beaucoup associé dans l'histoire de la RDC au 16 février 92. Mais on sait qu'avant ça, vous aviez déjà beaucoup d'activités liées à la non-violence, aux revendications pacifiques. Parlons du 16 février 92. Vous n'êtes pas l'organisateur de la marche.
Non.
Vous êtes plutôt associé à ce mouvement par le comité laïque de coordination. Et pour les jeunes qui ne le savent pas, rappelez un peu le contexte de l'époque. Avec le président Mobutu organise des consultations populaires parce que les choses allaient mal à travers le pays. À l'issue de ces consultations, il organise la conférence nationale souveraine. C'était un vent. D'ailleurs, plusieurs pays à travers l'Afrique ont fait la même chose. Et cette conférence, c'était des moments forts où les Aïrois à l'époque se disaient la vérité en face, se regardaient en face, et parfois ça devenait des règlements de compte. Et c'est dans ce contexte que cette conférence est fermée, et par la suite, comment on arrive au 16 février 92?
Eh bien, tu permettrais quand même que
je vous en prie,
je revienne un tout petit peu à la question précédente concernant Malula, parce que je n'avais pas terminé de donner un dernier élément qui me paraît très très important.
Je vous en prie, allez-y.
La vie de cet homme, de ce grand homme qui a marqué l'histoire de l'Église, non seulement de Kinshasa, mais du Congo et de l'Afrique, pourquoi pas du monde.
Un révolutionnaire.
Eh bien, l'une des caractéristiques que je garde du cardinal Malula, c'est son humilité. Un homme d'une grande humilité, d'une grande simplicité. Je le vois encore, n'est-ce pas, au volant de son véhicule, de sa VW, tout seul, conduisant tout seul, et venant dans la paroisse où moi j'étais jeune vicaire, stagiaire d'ailleurs, à Saint-Joseph, tous les samedis, il venait manger avec nous. Simplement, il vient vers 11h30 au volant de sa VW, il parque, et il descend, on l'accueille, et on prend l'apéro, et on échange sur des questions de grande importance scientifique, d'actualité politique et tout et tout, théologique, philosophique même. Et c'est là où j'ai découvert un homme d'une grande simplicité, très grande simplicité. Je pouvais aller chez le cardinal Malula un samedi après-midi sans m'annoncer, n'est-ce pas? Et j'étais encore séminariste, grand séminariste, n'est-ce pas? Sans m'annoncer. J'arrive et il m'accueille et il m'associe même à des conversations qu'il avait avec ses confrères évêques. Et ça, c'était important que je revienne là-dessus avant de...
Exactement. Revenons maintenant au 16 février 92.
Eh bien, d'abord, il y a eu la création du groupe Amos. Tu m'as posé la question, comment tu en es arrivé à la non-violence évangélique active? Eh bien, nous avons suivi la formation à la non-violence évangélique active de la part d'un Français qui s'appelle Jean Gosse. Jean Gosse, qui est décédé il y a quelques années déjà, paix à son âme, eh bien, Jean Gosse et sa femme étaient des apôtres de la non-violence. Ils ont parcouru le monde à former des gens dans cette non-violence évangélique active, très engagée. Il est venu à Kinshasa pour donner une formation. J'étais déjà prêtre et j'étais curé à la paroisse de la Résurrection à Salongo. Et j'avais mon équipe. Et je me suis inscrit et je les ai inscrits aussi pour que nous suivions cette formation au Thérésianum. Pendant 3 jours, enfermés au Thérésianum, nous avons reçu la formation à la non-violence évangélique active de la bouche de Jean Gosse. Et alors, il nous a bien formés, n'est-ce pas? Et il a même publié un petit livre sur Évangile et lutte pour la paix, n'est-ce pas? Et c'est le livre vraiment de ce séminaire, un séminaire d'entraînement à la non-violence évangélique active. C'était ça.
Et c'est ça qui vous a forgé.
C'est ça. Hein? Et j'ai découvert la valeur, la force de la non-violence évangélique active, hein, par cette formation de Jean.
Donnez-nous quelques éléments, Monsieur l'Abbé.
Quelques éléments. Eh bien, premier élément important, c'est que dans la non-violence évangélique active, on part d'une vision de l'homme. L'homme est un cœur et une conscience. Tout être humain a un cœur et une conscience. Voilà le premier élément important, la vision de l'homme. L'homme n'est pas son ventre, l'homme n'est pas seulement sa tête. L'homme, c'est un cœur et une conscience. Un cœur susceptible d'être touché par l'amour et une conscience susceptible d'être touchée par la vérité.
Voilà les fondamentaux.
Ça, c'est les fondamentaux. Et les trois principes, je dirais conducteurs, les trois principes fondamentaux la vie d'un non-violent, c'est le respect absolu de l'homme. L'homme qui doit être respecté comme image de Dieu et sauvé par Jésus-Christ.
En tout point de vue.
En tout point de vue. Respecter l'homme dans l'absolu. Car tout être humain est image de Dieu. Tout être humain, même le plus mécréant, même le plus, on peut dire, le plus salopard, et reste un être humain, reste une image de Dieu. Premier principe.
Deuxième
principe, c'est l'amour des ennemis. Sans l'amour des ennemis que nous enseigne Jésus, il n'y a pas de non-violence.
Troisième principe,
c'est le pardon des offenses. Et un pardon illimité, inconditionnel. Le pardon va de pair avec la paix. P-A-P-A. Pardon et paix vont ensemble. Il n'y a pas de paix sans pardon.
Et Monsieur l'Abbé, donc c'est avec ce bagage que vous arrivez jusqu'au contexte du 16 février.
Oui, c'est avec ce bagage que nous créons le groupe Amos. Le groupe Amos est né de la formation de Jean Gosse. Pour mettre les choses vraiment dans leur histoire, dans leur contexte, eh bien, quand j'ai suivi la formation de Jean Gosse au centre Thérésianum, eh bien, j'ai reçu Jean Gosse chez moi. J'habitais à Lemba, à la paroisse Saint-Augustin, et j'étais prêtre animateur, prêtre desservant à la paroisse de la Résurrection à Salongo. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invité Jean Gosse pour 2 jours de formation. Et ces 2 jours de formation, je les ai organisés de telle sorte que, en matinée, c'était la formation des ecclésiastiques, des religieux, des prêtres, des religieux, des religieuses, qui voulaient. Pendant 2 jours, 2 matinées, n'est-ce pas, Jean Gosse s'est donné le temps de nous former, de former les autres prêtres qui voulaient. J'ai adressé l'invitation à tout le monde, n'est-ce pas? Et on avait notre église à la Résurrection qui était pleine, n'est-ce pas, pendant 2 matinées,
ils venaient. Monsieur l'Abbé, le temps est en train d'avancer.
Oui, oui.
Allons-y.
Alors, c'est pour dire que c'est après avoir reçu la formation de Jean Gosse et après
cette
avoir
donné semence de la non-violence.
La possibilité à des prêtres et à des laïcs qui ont suivi la formation le soir, n'est-ce pas, eh bien, que nous avons créé le groupe Amos. C'est-à-dire, tous ceux qui ont suivi la formation, nous nous sommes donné comme mot d'ordre de nous retrouver 1 mois après pour faire le point. Cette rencontre qui est à l'origine de la création du groupe Amos, qui était un groupe qui s'est donné comme objectif de vivre la non-violence, adopter la non-violence comme style de vie et comme outil pour régler les conflits et mettre la paix, créer la paix. C'est alors que, quand il y a eu des problèmes à la conférence nationale souveraine, que Ngouz Karlibond a fermé la conférence nationale souveraine en disant que cette conférence ne pouvait plus continuer parce que on n'avait pas d'argent pour continuer à financer les travaux de la conférence, payer les conférenciers et tout et tout. Eh bien, il a fermé, n'est-ce pas? En fait, c'est Mobutu qui a demandé qu'on ferme la conférence nationale souveraine, qu'elle ne poursuive plus ses travaux parce que ça devenait pour lui un danger pour son pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les évêques ont écrit une lettre pour dire il faut réouvrir la conférence nationale souveraine. Les prêtres de Kinshasa, les abbés de Kinshasa ont aussi écrit une lettre, il faut réouvrir la conférence nationale sans condition. et la lettre des évêques de l'époque et la déclaration des prêtres de l'Assemblée du clergé quinois qui a été lue par l'abbé Moussois, qui était notre président à l'époque, le président de notre Assemblée. Il a lu cette lettre le 25 janvier de cette année-là, 92, n'est-ce pas, à la cathédrale, lors d'une messe. Eh bien, il a lu, on lui a donné la possibilité de lire cette lettre à la fin de la messe. Les évêques ont parlé, les prêtres ont parlé, et les laïcs ont dit, nous, nous devons agir. C'est comme ça que, est né le comité laïque de coordination, le tout premier comité laïque de coordination, avec François Candolo, avec Pierre Lumbi, avec Marie-Thérèse Moulanga, qui tous les deux sont déjà partis dans la maison du Père, et avec d'autres amis, n'est-ce pas, l'abbé Laou, Bonaventure, qui était avec eux. Eh bien, on a créé le comité laïque de coordination. Ils sont venus me voir. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Un mardi, je me préparais pour aller donner cours au grand séminaire tout le matin. Eh bien, je vois débarquer chez moi François Candolo et Marie-Thérèse Moulanga. J'habitais à Saint-Paul, à Barumbu, à la paroisse Saint-Paul. Et quand ils arrivent, ils me disent, nous sommes venus te voir, José, pour te demander si tu peux nous aider à organiser une marche pacifique. Toi, avec ton bagage de non-violence et tout ça, tu peux nous aider à organiser une marche pacifique pour demander
la réouverture de la conférence nationale souveraine.
Alors, ma première réaction, c'était de leur dire, écoutez, pourquoi marche ? Tout le temps des marches. On ne fait que des marches ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser
de changer, de faire autre chose,
une autre action non violente? Et je leur ai parlé de sit-in. Le sit-in, c'était quoi? Allons tous nous asseoir devant le palais du peuple jusqu'à ce que les portes se rouvrent pour reprendre les travaux. Et imaginez-vous, vous avez des personnalités comme Étienne Tshisekedi, comme Joseph Iléo, comme et tous ces grands-là de l'époque, n'est-ce pas ?
Ils se mobiliseraient pour ça.
Ils seraient avec nous, on s'assied par terre devant le palais du peuple. Ils me disent, ah non, mais nous sommes déjà en pleine préparation de cette marche, on peut plus...
C'est irréversible.
On peut plus revenir là-dessus. Est-ce que tu peux pas nous aider ? Je dis, bon, dans ce cas-là, indiquez-moi là où vous vous réunissez. Première chose que je vais vous dire, c'est d'aller voir Monseigneur Mosengo, de lui demander où est-ce qu'il en est avec les démarches qu'il est en train de mener pour que la conférence puisse reprendre les travaux. Parce que lui était
le président à l'époque,
de la conférence. Alors, bon, je les ai envoyés chez Monseigneur Mosengo et je les ai envoyés aussi chez le cardinal Echaou, qui était l'archevêque de Kinshasa à l'époque, pour qu'ils voient avec lui, puisqu'ils veulent organiser ça dans le cadre de l'Église catholique, à partir des chrétiens catholiques et tout, eh bien, qu'ils aillent voir le cardinal. Ils ont fait les deux démarches et... C'est comme ça que moi j'ai commencé à participer à leur réunion qui se tenait à Limité chez Pierre Lumbi, qui avait une maison à Limité et c'est là qu'ils se réunissaient. Alors je suis allé et lors des premières réunions que j'ai eues avec eux, je leur ai donné une formation rapide sur accélérée sur la non-violence évangélique active. D'abord la vision, les principes, mais ce que je dois ajouter, les techniques d'action, les actions stratégiques, les stratégies d'action non violentes. Je leur ai donné un peu tout cela et bon, ils ont mordu et c'est comme ça que nous avons étendu le mouvement. On a invité les pasteurs protestants, on a invité les commissions catholiques, commission des CVB, commission des intellectuels, commission des jeunes, on a invité différentes commissions.
Et le mouvement s'est élargi.
Et le mouvement s'est élargi, n'est-ce pas ? On a donné des formations accélérées à tout ce monde-là et le 16 février, il y a eu cette mobilisation qui ne s'est pas limitée à Kinshasa. La marche du 16 février a eu lieu à Kikwit, a eu lieu
à travers tout le pays, pratiquement, sauf à l'Équateur.
Ce
qu'on retient de cette marche, c'est qu'elle est réprimée dans le sang.
Elle a été réprimée.
Est-ce qu'il y a un bilan qui avait été donné?
Bon, le bilan, on n'aura jamais un bilan
objectif.
Un bilan qui serait le bilan. Non, il y a eu des organisations comme la Voix des Sans-Voix, comme l'Azado, des toges noires à l'époque, qui ont essayé de dresser un bilan avec des listes des noms des victimes. Ça, nous avons dans le livre écrit par le père Philippe de Dorlodo. C'est un père blanc, un missionnaire d'Afrique. Il a écrit un livre sur la marche du 16 février, la marche de l'espoir. Un gros livre qui est sorti aux éditions L'Harmattan et les éditions L'Harmattan avec le groupe Amos. Nous nous sommes mis ensemble pour produire ce livre-là.
Alors, qu'est-ce qui fait, Monsieur l'abbé, que cette date est restée comme emblématique, symbolique, vraiment du lancement de la démocratie pratiquement en RDC?
C'est parce que, à la suite de cette marche du 16 février, eh bien, la Conférence nationale souveraine a repris ses travaux. Voilà. Donc, c'était une victoire du peuple.
L'objectif a été atteint.
Un des objectifs, je dirais, l'objectif principal, c'était de la réouverture de la Conférence nationale souveraine sans condition. Nous avons atteint l'objectif. Mais maintenant, le vrai problème, est-ce que la Conférence nationale souveraine elle-même a-t-elle atteint ses objectifs? Là, la réponse est non. Tout simplement parce que les objectifs essentiels de la Conférence nationale souveraine, c'était d'abord la relecture de notre histoire. C'est-à-dire nous dire un peu quel est le chemin que nous avons parcouru. Et alors faire cette relecture pour découvrir d'où venons-nous, où sommes-nous.
Et où allons-nous,
pour
arriver à la refondation de l'État congolais.
16
février 92, 16 février 2026, 34 ans. Est-ce que vous pensez que les choses ont évolué sur le plan de la démocratie et nous sommes en train de terminer?
Eh bien, je dois dire que la démocratie n'est pas encore instaurée dans notre pays. La démocratie, entendons-nous, de quelle démocratie nous parlons? Si c'est la démocratie copie certifiée conforme de l'Occident, avec une démocratie institutionnelle, où nous avons les trois, la distinction des pouvoirs, pouvoir judiciaire, exécutif, législatif, et tout, nous avons les institutions, parlement, gouvernement, et tout, si la démocratie se limitait à l'existence de ces institutions dites démocratiques, eh bien oui, nous avons une démocratie. Mais à mon sens, la démocratie ne peut pas se limiter à cela. La démocratie est une culture. Et cette culture repose sur des valeurs. Et parmi les valeurs que moi je considère comme étant des valeurs clés, fondamentales de la démocratie, il y a l'égalité des êtres humains. Égalité avec comme corollaire le respect absolu de tout être humain, parce que nous sommes égaux. Deuxième valeur, c'est la participation avec comme corollaire la responsabilité. Nous devons tous participer. La démocratie sans participation, c'est quoi? Participation à la réflexion, participation à la prise de décision, participation à l'exécution des décisions, participation à l'évaluation de ce qui a été exécuté, participation de tous, mais de manière différente.
Chacun à son niveau,
n'est-ce pas? Mais tous nous avons la main dans la pâte. C'est ça, la participation. Et ce qui fait dire que si nous avons tous à participer, tous nous devons répondre de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons omis de faire. Et ça, c'est la deuxième valeur, participation. La troisième valeur pour moi de la démocratie, c'est la vérité, la liberté, la vérité qui rend libre. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Il n'y a pas de vérité sans liberté. La liberté vis-à-vis de la voix, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la gloire. Et une liberté pour faire le bien. Un quatrième valeur qui fait la démocratie, à mon avis, c'est la valeur de la justice. Mais une justice qui ne doit pas être simplement une justice distributive ou une justice rétributive, n'est-ce pas, où on parle d'impunité, de ceci, de sanctions et tout, non, mais la justice miséricorde, c'est cette justice qui sait faire la part entre le mal et le malfaiteur, condamner le mal, détruire le mal, repousser le mal, jeter le mal au loin,
et sauver la personne,
qui fait le mal.
Alors, Monsieur l'abbé, concrètement, en guise de conclusion, tout ça c'est bien, c'est toutes ces théories, mais par rapport à la vie que mènent les Congolais aujourd'hui, vous avez une très grande expérience en termes de démocratie, de non-violence. Quels conseils donneriez-vous aux Congolais, aux dirigeants, à la population, aux jeunes qui vous suivent en ce moment, en guise de conclusion?
Ben, en guise de conclusion, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, nous les Congolais, et réfléchissons sur notre vie. Ensemble, réfléchissons, prenons des décisions et agissons ensemble.
Ça, c'est dans un dialogue.
Je n'aime pas tellement le mot dialogue aujourd'hui qui est galvaudé, qui prend des connotations de toutes sortes. Il y en a qui voient dans le dialogue la possibilité d'accéder au pouvoir, de partager le gâteau et tout ça. Il y en a qui ont peur du dialogue.
Oui, mais ce serait par quel mécanisme ?
Moi, je dirais que inviter les Congolais à une réflexion sur 6 questions fondamentales.
La première.
Qui sommes-nous ?
La deuxième.
D'où venons-nous ?
La troisième.
Où sommes-nous ?
La quatrième.
D'où allons-nous ?
La cinquième.
Où voulons-nous aller ?
La sixième.
Comment y arriver ? Voilà. Si nous pouvons, dès maintenant, que chaque Congolais, personnellement, individuellement, répond à ces 6 questions, et les Congolais, collectivement, en se mettant ensemble à différents niveaux, niveau de la rue, niveau du quartier, niveau de la commune, niveau de la province, n'est-ce pas ? On se met ensemble et on répond à ces questions. Et toutes les réponses mises ensemble nous amèneront à peut-être élaborer ce que moi j'appellerais une charte, n'est-ce pas, de notre vivre ensemble. C'est-à-dire, nous aurons un projet collectif, un projet commun, un rêve commun. Nous rêvons d'un Congo ensemble et nous disons comment passer
nous
du rêve,
les moyens.
Les moyens pour passer du rêve à la réalité. En répondant à ces questions de la programmation, de la planification stratégique. Qui va faire quoi, avec qui, avec quoi, quand, comment et où, n'est-ce pas ?
Et aux jeunes, monsieur l'abbé, aux jeunes, il y a plusieurs jeunes Congolais qui ont perdu l'espoir, qui se disent avec la guerre, la situation sécuritaire au pays, la situation économique et même peut-être politique, ils perdent l'espoir. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh bien, ne perdons pas l'espoir. Engageons-nous dans la lutte pour que les choses changent dans notre pays. Ne fuyons pas notre pays. Jeunes, ne fuyons pas notre pays. Moi qui vous parle, j'aurais pu rester en Belgique, même prendre la nationalité belge et trouver un créneau là-bas pour être prêtre dans un diocèse en Belgique et travailler là-bas et gagner ma vie convenablement, avec tout ce que ça représente comme avantage. Parce que le prêtre en Belgique, il est fonctionnaire de l'État belge, il reçoit un salaire, c'est pas comme ici. J'aurais pu rester et donner cours là-bas, à l'université. J'aurais pu être retenu comme professeur.
Vous êtes revenu malgré tout.
Je suis revenu parce que je me dis, nous devons aimer notre pays. Et nous devons nous donner corps et âme pour que ce pays devienne le paradis que Dieu a voulu qu'il soit. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne voient pas l'intérêt supérieur de la nation. Nous voyons l'intérêt personnel. Et pour mon intérêt personnel, je préfère aller en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs où je vais faire ma vie. Hein, et puis bon, je ferai un regroupement familial et je gagnerai bien ma vie là-bas.
Tant pis pour le pays.
Non, de temps en temps, j'enverrai de l'argent par Western Union à mes parents ou à mes membres de famille et tout et tout. Et la vie s'arrête là. Non, il est temps qu'on puisse se dire, nous, Congolais, qui sommes à l'étranger, rentrons dans notre pays. Et pour rentrer dans notre pays, organisons-nous pour que ce pays devienne celui que nous voulons qu'il soit, pour que nous trouvions notre bonheur dans notre pays. Voilà, c'est ça l'appel que j'adresse à tous les... Et à nos dirigeants, aimez votre pays. La grande difficulté que nous avons, c'est le fait que nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas un État souverain. Ce qui fait que la plupart de nos décisions sont prises où ? Aux États-Unis, en Belgique et en France, n'est-ce pas ? Rappelons-nous la Troïka, à l'époque de 1 plus 4. Il y avait la Troïka, à l'époque de Mobutu déjà. Il y avait la Troïka. La Troïka, c'est quoi ? La France, la Belgique et les États-Unis, qui nous dirigent jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Alors, les dirigeants de notre pays, je vous invite à vous libérer de la tutelle de l'Occident, n'est-ce pas ? Et à vous unir à votre peuple, à vous connecter à votre peuple pour que vous deveniez une chance pour la renaissance du Congo.
Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Mpundu, d'avoir répondu à l'invitation de Grand Témoin.
Merci à toi, Alain, pour m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de moi et de parler de mon engagement pour le pays. Et je dois dire, j'aime le Congo et je continuerai à l'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Et j'invite tous les Congolais à aimer le Congo et à l'aimer et à le servir, n'est-ce pas, en mettant
en sourdine nos intérêts personnels égoïstes et en mettant en avant-plan l'intérêt supérieur de la nation.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Paul Badianyama qui était à la prise de vue sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Alain Irung Moshej. Vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission et beaucoup d'autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net ou sur toutes nos plateformes digitales. Mesdames et messieurs, restez branchés sur la fréquence de la paix. À la prochaine pour un nouveau numéro de Grand Témoin. Au revoir et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.